Chapitre 39. C'était vraiment la chute brutale. Lui, Vladimir Gostanev, héros de l'Union soviétique, arrêté, accusé de trahison et envoyé au goulag, jamais il n'aurait pensé que cela puisse être possible. Cette infamie, c'était pour les autres, mais eux étaient coupables. Maintenant, Vladimir était ébranlé dans ses certitudes. Il avait cru ses chefs. Staline ne pouvait pas se tromper. Pourtant, aujourd'hui, il avait tout perdu. À quoi avaient servi toutes les souffrances endurées, les combats devant Moscou, les horreurs de Stalingrad, la course exténuante et sanglante vers Berlin? Ses gardiens le considéraient comme un être abject qui avait trahi la patrie des travailleurs. Il se souvenait avoir eu la même attitude envers d'anciens amis. Aujourd'hui, c'était son tour. Après son procès, il y avait eu le long voyage à travers la Russie, enfermé avec d'autres détenus dans un wagon à bestiaux, la traversée de la mer et l'arrivée au goulag de l'archipel Solovetsky, le premier goulag créé en 1923. Le choix de ce lieu n'avait pas été fait au hasard. Les 6 îles Solovetsky sont situées au nord-ouest de la Russie, dans la mer Blanche. Les conditions de température sont terribles, très basses en hiver, ne dépassant pas 15 degrés en été. Dès leur arrivée dans le camp, les arrivants furent réunis devant les baraquements pour remercier le camarade Staline de leur donner la possibilité de se rééduquer par le travail. Ils avaient commis les pires crimes contre les travailleurs, en vendant leurs âmes aux capitalistes. Ici, par leur discipline, leur travail, on leur donnait la chance de redevenir de bons communistes. Vladimir Gostanev comprit vite que dans le goulag, il n'était plus qu'un numéro. Il n'était plus le camarade Vladimir Gostanev, héros de l'Union soviétique, mais le matricule 7899. Les journées étaient longues et éprouvantes. Les hommes levés dès les premières lueurs du jour étaient embarqués, après avoir absorbé un peu de soupe et un morceau de pain, vers les lieux de travail. Gostanev participa, entre autres, à la consolidation du canal de la mer Blanche. Le soir, les détenus rentraient au camp et s'allongeaient exténués sur les planches qui leur servaient de lit, en essayant de se réchauffer dans une couverture. Il y avait de tout dans les prisonniers, des détenus de droit commun, des opposants politiques, des traîtres entre guillemets comme Vladimir. Au bout de 2 mois, il avait perdu 20 kilos, seule sa robuste constitution lui permit de résister au froid, à la faim et au travail harassant. Tous les jours, des équipes étaient chargées d'aller enterrer en dehors du camp les détenus morts de privation et de froid. Plusieurs fois, Vladimir participa à ces funèbres expéditions. Comme elle était dure, cette terre gelée! À son arrivée dans l'archipel, il envisagea de s'évader. Mais il vit bien vite que c'était impossible. Comment traverser sans un bateau cette mer gelée? Et où trouver un bateau? Son seul espoir fut d'être un jour libéré. Les années passèrent. Les informations de l'extérieur parvenaient dans le camp par l'arrivée de nouveaux détenus ou par les gardiens. En 1953, Vladimir Gostanev crut que son calvaire était terminé. La nouvelle parvint, fantastique et inattendue. Joseph Vissarionovitch Djougachvili venait de mourir. Le grand Staline, le petit père des peuples, était mort. L'espoir se mit à renaître dans les goulags de Solovetsky. Quelques mois après, Nikita Khrouchtchev devenait premier secrétaire du parti communiste de l'URSS. Mais rien ne changea dans le goulag. Les événements continuaient à se dérouler à l'extérieur, les procès contre les crimes staliniens, le soulèvement en Hongrie, la crise de Cuba. En 1964, Léonid Brejnev remplaça Khrouchtchev. Le goulag continuait. Certes, les conditions de travail s'étaient un peu améliorées, mais pour le matricule 7899 et les autres, l'emprisonnement restait le même. Personne ne sortait de l'archipel Solovetsky. Puis ce fut la succession des changements de dirigeants, le sursaut de la Tchécoslovaquie, l'invasion soviétique en Afghanistan. Une lueur en 1985, Mikhaïl Gorbatchev succéda à Konstantin Tchernenko. Mais la lueur n'atteignit pas Solovetsky. Le dernier espoir de Vladimir Gostanev s'effondra avec le mur de Berlin. Le vieil homme n'était plus que l'ombre de lui-même, oublié le héros de Stalingrad. Il tâtait parfois ses cicatrices, seul témoin de sa gloire passée. Il sortait de temps à autre ce papier que lui avait donné l'officier allemand. Il avait tant espéré se rendre à Paris et devenir immensément riche. Il savait que cela ne serait plus possible. Il avait à peine les forces de survivre. Il avait cessé de travailler, les gardiens sachant bien que c'était inutile de le forcer, le laissaient tranquille. L'ancien héros de l'Union soviétique restait constamment alité, à bout de force. Un gardien l'avait pris en pitié. Il venait le voir dans son baraquement, lui apportait des rations supplémentaires pour lui donner des forces. Il recueillit les dernières paroles de Vladimir Gostanev, ferma les yeux du vieux russe, fouilla dans sa veste, trouva le papier et le déplia. Le mois suivant, il quitta l'archipel Solovetsky après la relève et ne revint pas.